c'est une nouvelle association qui s'intègre cette année au Forum Sport Santé Environnement. Qui va intervenir, Christian ou Seb?
Oh bah je vais laisser Seb commencer.
Eh bien ça marche, du coup on va parler sport de combat et sport de combat en armure avec des bonnes grosses armes. On accueille donc Lucien Antini, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc de Angoulême Béhour. Le Béhour, c'est une discipline dont vous allez pouvoir nous parler, parce qu'au final, on la connaît un tout petit peu parce qu'on a préparé le sujet, mais sinon, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Bah, déjà, en fait, le Béhour, la particularité de ce sport-là, c'est que c'est un sport de combat qui se pratique en armure et en plus de ça, qui est en équipe. Donc, on se retrouve sur quelque chose qui est assez inédit. Pour moi, un autre sport qui pourrait s'apparenter à ça, c'est le rugby. C'est assez proche.
D'accord.
Et c'est comme du rugby, plus du judo, mais on porte des armures. Et souvent, c'est le format le plus classique en compétition, c'est du 5 contre 5.
5 contre 5, c'est une manière de reproduire un peu la configuration bataille. Si ce n'est que, voilà, on en parlait tout à l'heure en antenne avec Christian, rien n'est chorégraphié, c'est vraiment du combat.
C'est vraiment du combat, on a une vraie préparation parce que on a à peu près 30 kilos de matériel qu'on porte sur nous. Et derrière, il faut être capable de faire chuter les adversaires sans chuter. Pour nous, parce que dès qu'on est au sol, on est éliminé. Et il faut tenir deux rounds. Et encore, des fois, il y a des égalités. Et ça peut s'étaler sur 5-6 rounds. Donc on est sur des matchs qui font plus de 10 minutes. Voilà quoi, ça c'est fou.
Ouais, il faut certaines conditions physiques.
Et donc, les rounds, est-ce que c'est quand l'équipe complète est au sol ou il y a quand même un temps imparti et on prend finalement l'équipe qui a le plus de, entre guillemets, survivants pour gagner la manche?
Eh bien, justement, il y a les deux, en fait. Parce que d'abord, le but premier, c'est de faire tomber l'équipe adverse au sol. Donc, c'est-à-dire que quand on a couché les 5 adversaires, on a gagné le round. Ou alors, si on fait une suprématie, c'est-à-dire qu'on est 3 de notre équipe encore debout et qu'en face, il n'y a plus qu'une seule personne debout. Là, le match s'arrête. Ou alors sinon, un round dure 5 minutes. Et pour gagner un combat, il faut gagner les deux rounds. Voilà.
D'accord. Et donc... Le Béhour, c'est aussi connu sous le nom de full contact médiéval, donc ça mêle au final deux choses, le sport de combat et l'histoire.
Oui,
complètement. J'imagine que la plupart des membres de votre club sont fans d'histoire et voire de sport de combat.
Mais en fait, on a différents profils, on a des gens qui s'intéressent beaucoup à l'histoire et qui sont à la recherche un peu de sensations fortes et du coup vont aller vers le Béhour, ou alors on a des gens qui aiment le sport de combat, qui aiment l'esprit d'équipe et qui vont se retrouver confrontés à l'historicité. Et on est obligé de s'y intéresser parce qu'en fait, quand on confectionne notre kit de Béhour, donc l'armure complète, déjà c'est du fait sur mesure, c'est des forgerons qui nous les fabriquent, on leur donne nos mesures, ça prend plusieurs mois pour être fabriqué. Et il faut que ce soit cohérent historiquement, c'est-à-dire qu'on a un comité d'authenticité qui est rattaché à la Fédération Française de Béhour, voire même à la Fédération Internationale HMBIA. Et en fait, on doit faire valider notre set par ce comité et montrer que tout notre kit est cohérent sur 30 années, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une brigandine qui a une protection de buste du XIIIe siècle et un casque du XVIe siècle. Il y a un trop grand écart. Donc on doit faire des recherches en trouvant des sources et en prouvant que voilà, moi, ma protection de main, elle date de 1380 parce qu'il y a une source d'une statue à l'église de Nuremberg en Allemagne où on voit ça et du coup j'ai le droit de le porter avec mon casque qui a une référence de 1395.
D'accord, et chacun peut se composer, on va dire, son kit, du moment qu'il est validé. Après, c'est les forgerons. Est-ce qu'on peut être amené aussi à bricoler soi-même, ça?
Alors, il y en a quelques-uns qui le font. En France, on a un combattant breton qui carrément s'est fait sa propre armure.
D'accord.
Mais voilà, il a une formation, il s'est beaucoup intéressé à ça. Et c'est énormément de temps. Voilà, c'est des mois de travail. Il a une superbe armure, elle est vraiment magnifique. Nous, après aussi, on va chercher l'optimisation sportive. Forcément, c'est un sport. Donc, une armure, c'est à peu près 30 kg de matériel, mais on va chercher à alléger les pièces. Donc on va aller vers du titane par exemple, ce qui est un peu plus cher mais par contre plus léger.
Oui.
Par contre ça encaisse un peu moins les coups.
D'accord.
Donc en termes de rapport à la douleur, si on veut être plus léger, il faut accepter que quand on va se faire toucher, ça va falloir serrer les dents. Quoi.
Oui, en fait c'est un compromis à trouver entre la mobilité, parce que un peu comme Dark Vador dans Star Wars, quand on a une grosse armure, c'est vraiment très compliqué de bouger.
Ouais.
Et à la fois aussi la mobilité pour justement toucher l'adversaire, mais aussi le fait de pouvoir encaisser les coups adverses, parce que si on encaisse trop de coups, forcément, on va pas faire long feu.
On va pas faire long feu. Après, c'est là où, comme je disais, c'est un sport de combat, mais d'équipe. Et en fait, comme au rugby, on a des postes, on a des piliers, on a des centres, etc. Et donc, par exemple, les piliers qu'on appelle les bords de lice, ou voire les bords, nous on appelle ça comme ça, c'est les gens qui sont au bord de l'espace de combat qui s'appelle la lice, qui est une sorte de clôture en bois. Et eux, ils vont avoir un matériel très épais, beaucoup de pièces d'armure pour pouvoir justement bloquer l'avancée adverse, stopper les types, en choper un, voire deux, Et voilà, ils vont avoir un jeu où ils vont venir engluer l'adversaire, etc. Alors que par exemple, le centre, il va avoir un équipement beaucoup plus léger pour pouvoir être très mobile, courir dans tous les sens, arriver dans le dos des adversaires, leur faire des projections, des charges, etc. Ou alors on a bah, par exemple mon poste qui est astier, donc moi je suis à la hache à deux mains avec un manche long qui fait à peu près 1m50 et moi je vais rôder dans l'espace de combat, éviter la lutte, etc. Et je vais chercher les failles d'armure, et dès que j'ai un camarade qui tient un adversaire, bam, je vais aller taper. Et l'idée, c'est de faire ce qu'on appelle le one shot one kill, c'est-à-dire qu'un coup est censé faire que l'adversaire est plié et tombe au sol à cause de bah, soit la douleur, soit le fait que ça l'a piqué, et là mon pote peut faire tomber du coup plus facilement l'adversaire.
Mais justement, en parlant des armes et des techniques de combat, j'imagine que voilà, pour que ce soit légal, il faut que ce soit un petit peu réglementé. Ouais. On a quand même donc des armes authentiques.
Ouais, en acier, qui sont forgées, elles sont juste émoussées. Et après aussi, on a beaucoup de règles sur les armes et les armures. Mmh. Et on a un comité d'arbitrage qui, avant chaque compétition, on va passer à peu près une heure à faire le check de matériel. Mmh. C'est-à-dire qu'on doit faire la queue, on est tous avec nos armes. Mmh. Et elles se font valider en fonction des règles. Voilà, on a le droit à une certaine épaisseur d'acier. Ils vérifient toutes les lames pour voir s'il n'y a pas de tranchant, s'il n'y a pas de des petits coups qui pourraient blesser les gens à cause des frappes. Mmh. Des blessures graves, j'entends par là, parce que des blessures, on en a.
Il y en a forcément.
C'est un sport de contact. Mais voilà, donc tout est vraiment bien vérifié, bien cadré, et donc toutes nos armes, elles sont validées par les arbitres. Mmh. Et on a un petit autocollant sur nos armes, donc les gens qui passeront tout à l'heure au stand pourront voir, on en a amené une ou deux, et qui ont l'autocollant dessus. Et donc l'autocollant, ça veut dire que ça a été validé et qu'on a le droit de l'utiliser sur la compétition. D'accord. Et à chaque compétition, il faut ressort le même matériel.
Un revérification. Voilà.
Au final, c'est comme au biathlon, parce qu'au biathlon, on vérifie l'arme, le fusil avant de
s'élancer. Oui, ouais. Mais c'est un sport. On n'est pas là pour faire n'importe quoi. Donc.
Et les armes, c'est des armes personnalisées aussi, individuelles, ou finalement c'est des armes qu'on récupère sur le lieu de compétition et avec lesquelles on combat?
Voilà, alors en fait, pour ce qui est des armes qu'on utilise, il y a plusieurs cas de figure. Alors soit, déjà ça va dépendre du poste qu'on occupe. Par exemple, bah, pour moi qui fais la hache à deux mains, je vais pas acheter ce qu'on appelle un fauchon, qui est une sorte de machette, ou une hache à une main, c'est pas intéressant pour moi. Mmh. Par contre, bah, nous, nos runners, les runners c'est ceux qui sont au centre, ils vont préférer avoir une petite hachette à une main, parce que dans les règles, on peut venir saisir le manche, ils peuvent arriver derrière, ils peuvent venir agripper, ils peuvent voilà. Et pour donc on achète nos armes, ou alors bah, on a un forgeron dans l'équipe qui lui va faire le tour des brocantes et va acheter des fers de hache en lot, il va aller sur le bon coin, etc. Donc si jamais dans les auditeurs il y a des gens qui se font prendre des lots de fers de hache, bah c'est peut-être nous. Donc voilà, on les récupère, on les retape pour qu'elles puissent servir en compétition et nous faire gagner quoi.
Porter une armure, on sait que c'est lourd, vous l'avez dit, une trentaine de kilos environ pour un équipement. Vous faites de la préparation physique pendant les entraînements, ou c'est conseillé d'en faire en parallèle?
En fait, on a les deux. Au début, quand on recrute des nouvelles personnes, donc là on a la rentrée là en septembre, le 19 septembre, on passe à peu près 3 mois à vraiment s'orienter sur la préparation physique, les bases de la lutte, des bases de judo et quelques notions de combat en 1 contre 1 avant de passer sur du matériel plus lourd. Et vraiment des trucs très 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 typiques du Béhour, comme on travaille en 2 contre 1, etc. Donc ouais, il y a une préparation physique. Nous, on est à 3 entraînements par semaine de club. Et à côté, ce qu'on demande, c'est que chacun ait une pratique. Alors souvent, on va aller à la salle pour optimiser un peu le corps. Il y en a certains qui vont aller faire du crossfit. Il y en a qui vont carrément faire d'autres sports de combat à côté.
D'accord.
Donc ouais, ça demande une bonne prépa, parce que bah, 30 kilos de matériel, les tournois c'est sur une journée voire 2 jours, et on a à peu près en moyenne 8 combats par jour. Donc sachant qu'un combat peut durer maximum 10 minutes. Mm-hmm. Donc il faut qu'on soit vraiment prêt à ça, parce que bah, bon, y a aussi le stress comme dans tout sport, quand on commence une compétition, on a envie de gagner. Donc bon, on a un peu les foies au début, parce que bah, il n'y a pas de différence de catégorie dans le Béhour, donc on peut se retrouver face à l'équipe championne de France alors qu'on débute. Voilà. Moi, la première fois que je suis rentré en lice en 2017, j'ai été contre les champions de France. C'était la toute première fois que je portais une armure. J'étais pas prêt physiquement, j'étais pas prêt dans la technique. On m'a juste. En fait, il y avait un gars qui était blessé dans l'équipe, et moi j'étais là en tant qu'écuyer. Et on m'a dit, bah écoute, il y a une armure dispo, tu la mets et tu combats. J'ai fait bon, d'accord.
Au moins, t'es rentré dans le grand bain directement.
Oui, j'ai pris un KO. Voilà. D'accord. Je me suis relevé, j'ai fait, allez, c'est super, je signe, et voilà.
Ok, ça marche. Ah, ouais. côté info pratique maintenant, du coup, où est-ce que vous vous entraînez? Comment est-ce qu'on peut vous rejoindre?
Alors, déjà, si les gens qui sont intéressés, on a une page Facebook, une page Instagram.
Oui.
Voilà.
Et quelle?
Donc Angoulême Béhour.
Voilà. Angoulême Béhour. Donc Béhour qui s'écrit B-E-H-O-U-R-D.
Exact. Et ensuite, donc nous, on s'entraîne les lundis et les jeudis au dojo de Tapona. Et après, on fait un autre entraînement les week-ends, mais eux, mais qui sont plus fermés, on va dire. Ça, c'est vraiment pour les compétiteurs. On a un espace qui est la lisse, qui est l'espace de combat. Mmh. On a ça dans un jardin d'un des gars de l'équipe. Et c'est là où on entraîne l'équipe, on se prépare. Là, on a la Coupe de France dans 2 semaines, à Bordeaux, du côté de Cadillac. Et donc là, voilà, c'est les nouveaux, ils vont pouvoir venir, regarder un peu, etc. Mais là, c'est vraiment focus sur l'équipe compétitive, la prépa pour toujours monter dans le classement. On est une équipe débutante. Mais on se veut manger des places le plus possible et à monter dans le BO français comme on peut, donc on se défonce, voilà quoi.
Donc ça veut dire que dans votre équipe de BO, il y a un 5 majeur avec donc 5 titulaires chevronnés, et après donc il y a les potentiellement ceux qui peuvent vous renforcer ou prendre la relève qui se prépare.
Voilà, en fait une équipe c'est 8 personnes, c'est 5 dans la liste, mais on a les remplaçants. Oui. Donc on va tourner, on a le droit entre les rounds de
donc
tourner.
Ça veut dire que pendant le
round qui se déroule, mais sur le match, voilà, round 1 on a 5 types. Et round 2, on peut faire
le droit de faire des changements.
Voilà, c'est
d'accord,
ça.
Okay.
Après, on a ce qu'on appelle les commandos. Ça, c'est quand on part à 5. Donc, on a personne. On se tape 8 combats dans la journée. Et c'est très, très dur. Ça, c'est vraiment très éprouvant.
Justement, comment on définit qui va combattre ? Est-ce que... J'imagine que ça, quand même, c'est quand même un sport de niche. Donc, au final, vous connaissez à peu près toutes les équipes et tous les combattants. Est-ce qu'au final, c'est une stratégie que vous avez à l'avance, que vous avez préparée à l'entraînement ? Ou est-ce qu'au final, vous allez vous adapter aux forces et aux faiblesses d'équipe d'en face ?
Alors, comme on est une équipe débutante, pour le moment, on a peu d'expérience de compétition. Voilà, moi, j'ai commencé en 2017. J'ai fait 3 ans de BO dans un autre club. J'ai été pris en équipe de France en 2019. Donc, j'ai fait les mondiaux en Ukraine. Donc, voilà, j'accumule l'expérience à ce niveau-là. Par contre, Angoulême, il y a eu le Covid, donc très difficile de développer le club. Mmh. Et pareil, le BO français est un peu mort ces derniers temps parce que peu de compétition à cause des restrictions que tout le monde connaît. Là, ça y est, ça redémarre enfin. Et donc, du coup, je parle de Béour et je me perds et j'ai oublié la question.
Non, est-ce que la stratégie, vous l'adaptez en fonction de.
La stratégie, comme pour le moment, on est un club plutôt jeune, on est en train de la mettre en place, voir un peu en fonction des membres qu'on a. Mm-hmm. Mais l'idée, c'est on a des stratégies différentes et variées parce que c'est un sport de combat et on ne peut pas avoir qu'une seule ligne directrice, on en a plusieurs qu'on adapte. Et quand on va à une compétition, que les poules ont été tirées, qu'on sait qui on va affronter, là on regarde en boucle les matchs des adversaires qu'on va affronter, on analyse comment ils fonctionnent et on se fait souvent une à deux soirées où on regarde les matchs et on fait ok d'accord, il y a lui qui fait comme ça, face à cette équipe. Par exemple là on avait une équipe, les Bannis de la Grenouille, qui est une très bonne équipe, ils ont un très très bon capitaine qui est très dangereux. Et en fait, on a observé comment ils fonctionnaient et on s'est dit, ok, d'accord, eux, ce qu'ils cherchent, comme c'est des bons judokas, ils cherchent pas à travailler avec le bord de la lisse, ils cherchent à travailler au centre. Donc, ils vont forcément essayer de nous faire décoller. Et nous, on va pas se décoller, on va les engluer. Et comme ça, ils pourront pas appliquer leur méthode de judo. Et on a gagné 2 fois contre eux, du coup, parce qu'on a analysé, on a pris le temps de regarder et on s'est adapté à eux. Voilà.
Et est-ce que vous filmez vos matchs ? Parce que beaucoup de sportifs fonctionnent avec la vidéo, notamment pour revoir leurs matchs. Est-ce que ça fonctionne pareil pour vous ?
Ouais. Voilà, alors pour les matchs, moi ce que je fais, c'est que je regarde tous les matchs et je fais des statistiques pour chaque combattant. Après, je dis, t'es tombé tant de fois, t'as un ratio de 44% de faire tomber sur un round, etc. Donc on regarde les vidéos, on les analyse, on fait des retours sur chaque combattant, on réaiguille après le travail qu'on fait du coup les week-ends, vu que là c'est vraiment pour l'équipe compétitive. Donc là on a un combattant qui a du mal avec ses appuis, on va prendre le temps de dire on va corriger ça, on va s'orienter un peu plus sur le travail en bord de lisse, etc. Tu vas travailler tes appuis. Donc et on regarde les matchs qui sont diffusés toujours, toutes les compétitions de toute façon sont diffusées sur la page Facebook de la Fédération Française de BO.
Ah oui, d'accord.
Ils ont aussi une page YouTube avec tous les matchs, donc c'est bien fait, il y a des playlists pour chaque compétition et donc c'est possible.
Donc au final, au tirage au sort, on peut même aller regarder sur YouTube les vidéos des équipes adverses.
C'est ça. Donc c'est pour ça, on peut faire les analyses où on fait une sélection de vidéos, on regarde les matchs forts. Et pareil aussi pour évoluer, on regarde les grosses équipes. Par exemple, là on a l'équipe monégasque qui commence à arriver dans elle est soit top 1, top 2, donc on est vraiment dans les 3 meilleures équipes françaises. Et par rapport à mon rôle qui est astier à la hache à deux mains, moi je regarde tous leurs matchs parce qu'ils ont des très très bons astiers et on analyse leur méthode. Ils travaillent comme ça, ils se positionnent comme ça, ils travaillent en binôme de telle manière. Et on cherche à mettre en application, à comprendre comment ça fonctionne. Et du coup aussi, c'est bah, quand on se retrouve à se battre contre eux, bah, on sait plus ou moins comment réagir. Même si le niveau est vraiment supérieur et qu'on, pour le moment, on les a affrontés là, appartenait début août. Bon, on s'est fait rouler dessus. Hein. C'est un niveau qui est. Mais bon, les gars, voilà, ils sont bien rodés. Bon, on espère qu'on va leur la prochaine fois, peut-être pas, mais d'ici un ou deux ans, c'est ce qu'on vise, quoi. C'est arriver dans le top 5. Voilà, ça c'est l'objectif. Mais on prend le temps, c'est difficile.
Et pour en revenir au Béhour, quelle est finalement la jeunesse de ce sport et est-ce qu'il est hyper. Est-ce qu'il est populaire en France? Est-ce qu'il y a beaucoup de clubs?
Bah, alors, la France, c'est quand même un des pays les même majeurs du Béhour. On a la Russie, on a l'Ukraine. Et pour moi, on a la France, clairement. Il y a une trentaine de clubs aujourd'hui en France, c'est énorme. On a la chance d'avoir une compétition par mois de BO, donc ça c'est pareil, c'est assez génial. Et on a énormément de très très bons combattants sur le territoire français aussi, qui sont connus à l'international.
Oui,
on a un Russe par exemple qui fait des vidéos et il fait par exemple le top 10 des meilleurs runners, etc. Et il y a toujours des Français dans ces tops, quoi.
C'est vrai qu'en plus une plateforme comme YouTube c'est hyper vendeur, hyper jeune, hyper tendance, donc ça permet aussi de faire connaître la discipline.
Tout à fait, on a même maintenant on a Twitch qui prend un peu le relais de YouTube et on a.
Ou d'ailleurs le club de créer peut-être potentiellement une page YouTube dans quelques
projets. Voilà, on a déjà une page YouTube, mais on met seulement tous nos combats dessus. Voilà. Dès qu'on a fait une compétition, on télécharge les vidéos et on les poste là-dessus pour l'instant. Après, on voulait aussi sensibiliser les gens un peu au BO, on voulait faire des vidéos explicatives très courtes de 1 minute 30 à chaque fois avec un point de règle, un aspect du Béhour, mais en fait à mettre en place c'est un travail vraiment, et on a déjà fait un travail en plus de gérer le club, et ça c'est pas pour l'instant non, mais c'est un des projets qu'on a parce qu'on a envie que les gens s'intéressent au Béhour un maximum.
Et puis tu parlais tout à l'heure de Russie, d'Ukraine, ce qui est hyper intéressant au final c'est l'aspect aussi médiéval. C'est-à-dire que les armures vont être différentes parce que l'histoire de Russie, l'histoire de France, c'est forcément une histoire qui est différente. Donc il va y avoir des armures complètement différentes d'un pays à l'autre. J'imagine que c'est aussi hyper enrichissant d'échanger à l'international avec des passionnés d'histoire et de combat.
Ça c'est super. Ça c'est super. Après, tout à l'heure, je parlais d'optimisation et en fait, il y a des kits qui sont optimisés. En fait, maintenant, même les mecs qui viennent par exemple de Norvège ou ce genre de pays qui ont vraiment une culture dans l'armure qui est très différente de la nôtre.
Oui, la culture viking.
Exact. Et ils vont quand même porter des sets très européens parce qu'en fait c'est ce qu'il y a de plus optimisé dans le sport. C'est là où on cherche à s'alléger, etc., à mieux respirer, à mieux voir. Et en fait, les armures mongoles, les armures russes ne sont pas très adaptées à la pratique du Béhour en fait. Donc on en voit de temps en temps parce que y en a qui aiment vraiment ça et qui décident de combattre avec. Mais quand on est à la recherche vraiment de l'optimisation sportive, on va aller vers de l'armure européenne parce que c'est vraiment le top, quoi.
Et donc les combattants sont forcément en armure, les arbitres aussi ont un uniforme particulier. Alors, est-ce que le public aussi est
en armure? Non.
Pas en armure, mais en tout cas en habit médiéval.
Alors ça dépend. En fait, les compétitions de Béhour, alors des fois, il y en a qui sont greffées à des fêtes médiévales. Mais comme ça se veut être un sport, des fois, ça se passe en gymnase. Des fois, ça se passe sur des lieux historiques. Par exemple, à Parthenay, on était dans les ruines du château, donc ça, c'était assez génial. Il y a Carcassonne aussi, ou le tournoi de Carcassonne, qui est pour moi un des meilleurs tournois du fait que déjà, on est dans la ville de Carcassonne et c'est assez incroyable de se battre
avec les remparts et tout.
Voilà. Et en plus, il y a un format où c'est en round robin, donc il n'y a pas de système de poule, c'est toutes les équipes présentes affrontent toutes les équipes. Okay. Donc ça nous fait à peu près, je crois, entre 16 et 18 matchs sur le week-end. C'est super.
C'est assez hardcore du coup physiquement. Ouais. On peut dire que c'est une battle royale.
Ah ouais ouais. D'ailleurs, en parlant de battle royale, on a le 5 contre 5, mais j'ai pas parlé du 12 contre 12 et du 30 contre 30.
Ah oui.
Voilà, et pour les 10 ans de la fédération de Béhour, parce que c'est un sport qui est jeune, il a seulement 10 ans à peu près, il y a eu du 150 contre 150. Voilà, aux mondiaux en Serbie. Okay. Et c'était, alors à regarder, c'est un peu lent parce que 150 bonhommes contre 150 bonhommes, ça prend du temps avant de se coucher. Mais par contre, à vivre, tous mes potes qui étaient m'ont dit c'est fou.
Est-ce qu'on peut considérer ça comme une reconstitution historique un peu ou pas du tout?
En tout cas pour le 150, oui. Oui, on est vraiment, à mon avis, les batailles vraiment comme elles étaient à l'époque médiévale, je pense que le 150 s'en rapproche pas mal. Après, en Béhour, on n'a pas le droit à les stocks, donc les coups plantés parce qu'on peut blesser.
Oui.
C'est que des coups en latéral, etc. Oui. Donc on retire cet aspect-là et donc toutes les techniques qui servent à dévier les coups, ça on le retire du Béhour, donc on n'est pas à 100% dans une reconstitution historique, mais je pense que le 150 en tout cas c'est ce qui devait se rapprocher le plus des batailles.
Et justement, moi, je voulais rebondir sur la question de Christian. Si jamais, mettons, une municipalité, des historiens ou même un tournage de cinéma veut vous appeler pour faire une reconstitution de bataille, vous seriez à dispo ?
Ah, carrément. Nous, on a déjà été contactés pour une série France 3 qui nous demandait juste en fait du pré-matériel. Mmh. On peut le faire. Après, ça s'est pas passé parce que, bah, comme chacun a son kit et son, et eux, ils voulaient vraiment des casques identiques et ça, on n'a pas. Voilà. Okay. Donc, tant pis. Mais ça, on se prête au jeu à fond. Ça nous permet de faire vivre un peu l'assaut, de développer le sport. Mais en tout cas, nous, la ligne directrice, on va dire, c'est la compétition. Mais après, derrière, voilà, on a fait la fête médiévale de la Rochefoucauld. La semaine prochaine, on est à la fête médiévale de la Couronne.
Oui, avec la Couronne, une histoire de cœur. On l'annonce d'ailleurs dès aujourd'hui sur Attitude. On annonce votre présence. Donc, ce sera quoi? Des démonstrations? Comment ça va se dérouler?
Voilà, on va faire des démonstrations. Le samedi, on a 2 démonstrations et le dimanche, on en a 3. Donc là, par exemple, aujourd'hui, pour des raisons de sécurité, on peut pas utiliser les armes qu'on utilise en Béhour. Mmh. Et surtout, y a beaucoup d'associations sportives ici et on a que 15 minutes pour présenter le sport, ce qui est très très court. Mmh. Et surtout, on n'a pas réussi à mobiliser. Voilà, on va pas faire du 4 contre 4 ou du 5 contre 5 ici, c'est pas c'est
ah
pas
dommage.
Dommage.
Ah, parce que Steph, il était candidat.
Ah ouais. Bah, après on a des armures, on peut vous en mettre une, il y a pas de problème.
Oui, j'imagine. Ouais.
Mais par contre voilà, la semaine prochaine à la fête médiévale de la Couronne, là on va faire du 4 contre 4. D'accord. Voilà. Et on fera des démonstrations de combat avec les coups portés. Alors on fera attention parce que la semaine juste après on a la Coupe de France, donc on va éviter les blessures. Par exemple, moi, je vais pas avoir la hache à deux mains parce que même quand on veut pas faire mal et qu'on tape pas fort, ça fait quand même mal. Voilà, moi, j'ai bloqué l'épaule d'un pote sans faire exprès, ou j'ai mis KO quelqu'un sans faire exprès, alors que je voulais pas taper fort. Mais c'est très très efficace. Donc on a dit pour la démonstration, désolé pour le public qui voulait voir des gros coups de hache à deux mains dans
Il faudra donc aller à la Couronne la semaine prochaine.
Voilà, et même la Couronne, non, on ne servira pas les haches à deux mains, mais par contre il faudra aller à la Coupe de France du côté de Cadillac. Il y aura une vingtaine d'équipes attendues sur 2 jours. Voilà, donc ça va être un gros événement.
Et au niveau du matériel, quelle est l'espérance de vie finalement d'une armure et d'une épée potentiellement?
Ah, ça dépend de qui on rencontre.
Ça dépend
des
coups qu'on prend.
Ouais. Mais après chaque tournoi, on doit faire des réparations. Ça c'est sûr, il y a toujours un rivet qui pète, un cuir qui lâche. Ouais. Après en soi, mon casque que j'avais, mon premier casque, je l'ai utilisé pendant 3 ans et je l'ai changé parce qu'il n'était pas assez optimisé pour le sport, mais j'aurais pu l'utiliser encore. Mais c'est juste pour des raisons d'optimisation, j'ai changé, j'ai acheté un nouveau casque. Et pour des raisons d'optimisation, encore une fois, je me dis, c'est pas encore parfait. Là, ça y est, j'ai un nouveau casque qui se fait faire en Russie, là, en ce moment. Mm-hmm. Et donc là, le casque que j'ai, qui est vraiment très très bien fait, qui est un super bel ouvrage, je vais le changer, alors que je peux l'utiliser encore, à mon avis, pendant peut-être 5-10 ans, sans aucun souci. Par contre, il y a d'autres pièces plus fragiles. Souvent, ça va être les protections au niveau des épaules, parce qu'on prend beaucoup de coups à ce niveau-là, qui, elles, vont s'user un peu plus. Donc, on a des gens qui savent réparer, on a des petits forgerons, etc., dans l'équipe. Et on leur file le matos, et nous aussi, on apprend avec eux. On doit apprendre de façon à riveter ce genre de truc-là. C'est hyper
important. Du coup, les forgerons font aussi partie du club en tant que combattant?
Ouais, alors celui qu'on a en tout cas, c'est pas un forgeron, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la coutellerie en tant qu'amateur, et du coup qui chez lui a récupéré le matériel de son grand-père en fait, et de forge, et voilà, il a son enclume, tout ça, et il retape des pièces. Après sinon en France, on a des vrais forgerons, mais le souci c'est que malheureusement c'est très difficile pour nous de commander une armure en France, parce que les charges sont pas les mêmes comparées aux pays d'Europe de l'Est. Par exemple là, moi je commande en Russie ou en Pologne, ou en Ukraine.
Parce qu'une armure, j'imagine que c'est assez variable, mais combien grosso modo
Alors pour moi, une bonne armure bien optimisée, on est à peu près sur du 3000 euros. Voilà. Après pour moi c'est du 3000 euros. Comme en fait ça se fait sur plusieurs mois, en vrai ça peut prendre un an pour que l'armure arrive vraiment chez nous.
C'est étalé du
Voilà, c'est étalé sur l'année à peu près.
Et puis c'est cher aussi parce que c'est sur mesure au final.
C'est du sur mesure, c'est fait main, c'est pas usiné. Donc c'est des
travail
de pièces. Ouais, c'est ça qui est génial. Après moi je trouve que 3000 euros pour un set d'armure qui va nous tenir pendant peut-être 5-10 ans, et puis pareil, les pièces ça se revend. Voilà, j'ai revendu une protection, je l'ai vendue à quelqu'un du club, donc du coup je lui ai fait un prix, mais je pourrais presque la revendre au prix d'achat et racheter après une autre pièce un peu plus optimisée, quasiment au même prix. Après ça tourne en fait. Voilà.
Est-ce que potentiellement, donc Seb tout à l'heure parlait de tournage télé, etc., etc. Ouais. Est-ce que potentiellement le club aussi a dans l'idée de faire des portes ouvertes où finalement vous allez exposer vos armures au grand public?
Alors on fait des initiations l'été. Après, comme pour l'instant on n'a pas de salle vraiment attitrée, on a le dojo de Tapona où je remercie énormément le judo club d'ailleurs de Tapona de nous avoir permis d'avoir 2 créneaux, parce que ça a permis de maintenir le club et c'est hyper important pour nous. Mais actuellement, c'est un peu difficile, on va dire, d'accueillir des gens un peu n'importe quand et de faire des sortes de portes ouvertes. Par contre, voilà, l'été, on fait des initiations BO. Et puis après, les entraînements de BO sont ouverts vraiment à tous. On s'en fiche du niveau physique, on s'en fiche de la technique. On est là de façon pour former des gens. Donc moi, je pars du principe qu'on part de zéro. Là, pendant 3 mois jusqu'à quasiment décembre, ça va être de la préparation physique, des notions de lutte, etc. Voilà, nous on prend des gens qui arrivent, qui sont tout maigrelés, qui tiennent pas trop sur leurs jambes, qui ont un peu peur, etc. On les chope par la peau du cou, on fait toi.
C'est bon, j'ai mes chances.
Exactement, ouais.
C'est bien possible d'un coup.
Et ça donne c'est des super aventures humaines aussi, quoi. Enfin là, on a un gars par exemple, Félix. Moi, j'ai trouvé ça super beau. C'est un étudiant qui vit à La Rochelle, qui faisait les allers-retours le jeudi pour venir faire 2 heures d'entraînement, donc 4 heures de route pour 2 heures d'entraînement. Au début, il est arrivé. Beaucoup de faiblesses physiques, peur de la douleur, etc. Et là, on l'a emmené à Parthenay en compétition, donc quasiment un an plus tard. Et le mec, il a tenu, il a fait le taf, il a été super brave, il voulait tout le temps rentrer en lice, même contre les grosses équipes. Et là, je me dis, bon, bah, ça, c'est beau, quoi. Et ça, c'est le sport. Et c'est magnifique.
Et justement, moi, j'ai une question sur les faiblesses physiques. Si on a des séquelles physiques, est-ce qu'on peut quand même, du moment qu'on a un certificat médical, ça va, on peut être pris en charge?
Certificat médical, mais après, ça dépend des séquelles physiques. Si quelqu'un a des problèmes de dos, bah, non. On prend des coups dans le dos, même si on met une dorsale quand même sous l'armure, hein, pour bien se protéger. Mais ça va être difficile. Et surtout, en fait, comme on est une équipe compétitive, il faut qu'on puisse compter sur nos gars. Donc, si on a quelqu'un et en fait, à chaque compétition, c'est ah ouais, non, désolé, j'ai mes douleurs qui reviennent, etc. Bon, ok, on peut pas compter sur toi en fait. Et ça, c'est pas possible, on peut pas se permettre.
Ça marche. Question pratique sur le forum là, du coup, on peut vous trouver sur quel stand?
Alors, on est sur le D45, il me semble. Donc, c'est quasiment à l'entrée, on est juste en face de la grande scène.
D'ailleurs, vous êtes juste à côté du club de poker.
Tout à fait, mais juste en face. Donc peut-être qu'on va faire un petit poker en armure avec eux tout à l'heure. À voir.
Et du coup sur place, ouais, on peut trouver donc des armes,
voilà, armures. On a ramené peu de choses parce que voilà, ici on n'avait pas envie de ramener plein d'armes et puis surtout on n'a pas envie que ce soit manipulé par le public, et c'est pas tranchant, il n'y a pas de risque, mais voilà, on préfère minimiser les risques. Et donc on a ramené quelque chose, on a ramené une hache à deux mains pour que les gens se rendent compte un peu de ce à quoi ça ressemble. Ouais. Et on a un fauchon, donc l'espèce de machette, on a des casques, il y a mon armure qui est exposée, et on a des vidéos de nos combats qui tournent en boucle aussi, donc et de vidéos de combat, d'entraînement aussi, donc ça permet de se faire un peu une idée. Et on est en permanence 3 au stand et on est prêt à répondre à toutes les questions, il n'y a aucun problème, quoi.
Ça marche.
Bon, du coup, moi j'ai une dernière question, oui, potentiellement. Ouais, est-ce que potentiellement le fait d'avoir un gros parc d'attractions en Vendée qui fait des reconstitutions historiques, ça peut justement donner la vocation à certaines personnes de vous rejoindre?
Alors peut-être, mais comme le BO, c'est quand même un sport de contact et c'est.
Ouais, c'est vraiment très différent.
Voilà, c'est ça. C'est chacun a ses raisons de passer les portes du club et de se dire je me lance dans l'aventure. On a des gens qui ont essayé, qui sont restés même voire un an. Et qui ont dit au bout d'un moment, j'arrête parce qu'en fait, ça me convient pas. On est une équipe compétitive, on demande quand même 3 entraînements d'équipe plus les entraînements à côté. Et pour plusieurs personnes, souvent, c'est un engagement plus l'achat du matériel, l'armure, les déplacements en compétition. Là, on a une combattante, par exemple, qui part en Allemagne dans 2 semaines. Donc, elle s'est arrangée, mais elle va devoir prendre l'avion pour aller là-bas. Et tout ça, en fait, c'est à nos frais. Aujourd'hui, l'association, elle est naissante et on n'a pas les moyens de payer les déplacements, ce genre de choses.
En termes de déplacement, pour conclure, les armures, c'est lourd, c'est parfois encombrant, même avec les épées. Comment on se déplace? Est-ce que vous déplacez en minibus ou
Ouais, alors déjà, on a tous des gros sacs. Moi, j'ai un sac de 180 litres. Qui est renforcé, dans lequel boum je mets mon armure. Et après pour les déplacements, alors pour l'instant c'est chacun prend sa voiture. Moi j'ai acheté un gros Scénic 7 places histoire de pouvoir mettre au moins 4 sacs d'armure dedans. Mais voilà, pour le moment c'est avec nos véhicules, et à l'avenir on aimerait bien trouver un véhicule 9 places pour pouvoir se déplacer. Par exemple on a une compétition dans le Var en octobre, donc c'est 9 heures de route, et l'idée c'est on va louer un 9 places et puis on mettra toutes les armures dedans, tous les combattants et combattantes. Parce qu'on a des combattantes aussi. Ah oui, alors ça c'est hyper important. Oui. On a une équipe féminine. Et surtout, alors pour l'instant, on forme l'équipe féminine. Et on n'a que 2 combattantes actuellement qui combattent dans l'équipe bretonne. Mais on est très très fiers de nos combattantes parce que pour l'instant, elles ont été invaincues sur le sol français. C'est-à-dire que dès qu'il y avait des compétitions avec du féminin, des fois c'était juste du 2 contre 2, nos nanas à chaque fois ont gagné. Amandine a eu, lors de sa première compétition officielle, le titre de championne de la Lys. Donc, félicitations à elle. Et la semaine dernière, c'est Louise qui a eu le même titre, championne de la Louis, de la Louise. Bah oui, championne de la Louise, championne de la Lys. Voilà, elle s'est illustrée parmi les autres combattantes qui étaient présentes. Il y avait même des Anglaises. Et voilà, donc on est très fiers de nos nanas. Et cette année, on a vraiment mis le point fort là-dessus en termes de recrutement. On a fait une initiation exclusivement féminine parce qu'on cherche à développer ce sport-là. On a envie qu'un maximum de gens s'intéressent à ce sport et on a envie d'avoir une équipe féminine qui est solide et reconnue, quoi. Et pour l'instant, c'est plutôt bien parti, on est fiers d'elle.
Et puis tu parlais de l'équipe de France tout à l'heure, j'imagine que de combattre pour la France, en équipe de France, ça doit être quelque chose.
Ça c'est formidable. Bah oui,
comment ça se passe? Il y a les hymnes nationaux. Comment ça se passe un match national? International.
En fait, comme un match classique de Béhour, en fait, on a, au lieu d'avoir des clubs qui s'affrontent, c'est des équipes nationales. Voilà. Donc là, quand j'étais en Ukraine, il y avait, alors je sais pas combien d'équipes il y avait. Je sais qu'on a affronté les Finlandais. Il y avait les Autrichiens qu'on a affrontés, les Anglais. Match, ça toujours, hein, France-Angleterre. Voilà.
Un remake de la carte de 100 ans.
Ah, mais toujours. À chaque fois. De toute façon, dès qu'il y a les Anglais en face, en dehors de la liste. En dehors de la liste, on est tous très potes. Il y a vraiment une super bonne ambiance. On est content de se voir. On demande comment ça va, la famille, etc. Par contre, une fois qu'on est dans la liste, non, il y a plus d'amitié. C'est terminé. Des fois, on se parle un peu quand même, hein, entre deux coups. On se glisse deux trois blagues, mais bon, on est là pour gagner. Donc.
Et quand la victoire est au rendez-vous, est-ce que vous avez un cri de guerre ou quelque chose comme ça?
Alors nous, l'équipe Talafr, on a repris la devise de la famille Taillefer, qui est non quad sedoubi, donc peu importe le nombre, ce que l'on veut savoir c'est où est l'affrontement. Donc voilà, nous on est vraiment dans cette démarche de, on s'en fiche de qui on va avoir en face, nous ce qu'on veut c'est aller au combat. Donc le non quad sedoubi, c'est ce qu'on crie avant de lancer un match, alors pas tout le temps parce que bon, non, c'est redondant, mais souvent voilà, ça c'est notre cri
non quad sedoubi. Ah oui, c'est
voilà.
Marrant,
ça. Ah ouais, voilà, ça c'est le truc qu'on s'est approprié, mais chaque équipe a son cri de guerre comme ça.
D'accord. Parfait. Et voilà. Écoutez, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et puis, Angoulême Béhour sur les réseaux sociaux, vous trouvez comme ça avec toutes les infos et tout.
Sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube.
YouTube aussi, également.
Évidemment, ici sur le forum jusqu'à demain soir.
Exactement. Et on sera ravis de vous accueillir.
Avec grand plaisir. Merci à vous. Bon forum. Merci.